France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. La présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Vous. Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
C'est un décret qui définit le genre. Le court-métrage ne doit pas excéder 59 minutes et il peut s'en passer des choses en 59 minutes et peut-être en beaucoup moins de temps et parfois plus que dans un long-métrage. Le court sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Son économie est précaire, sa diffusion se raréfie, sauf dans des festivals comme celui-ci qui résiste et qui brille à Pantin, côté court, 34e édition. Bonjour Olivier Babinet.
Bonjour.
Réalisateur, scénariste, Pantin qui diffuse cette année le court qui vous a projeté dans le long, c'est plutôt genre Johnny Walker, sorti en 2008. À vos côtés, trois réalisateurs de ce côté court 2025. Bonjour Camille Dumortier.
Bonjour.
Autodidacte, c'est un diplôme très reconnu dans le cinéma, vous présentez Assis, pas bouger. Bonjour Victor Boyer.
Bonjour.
Vous, c'est Sciences Po et La Fémis, et ce film Les Traquantes, est votre cinquième court. Bonjour Éric Pinatel.
Bonjour.
Votre parcours est plus long, un premier court en 89 et le petit nouveau, James Hadley, porte plainte, une fiction à partir de votre passé d'élève à Bétaram. Enfin, les sorties des longs métrages de la semaine, Un Cloud, Des Moutons, Freud et À l'horizon, c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Je suis nerveux en ce moment, j'arrête pas de froncer les sourcils. Je me demande si j'aurai pas un creux entre les deux yeux quand je serai vieux. Tu sais, comme mon père, on dirait qu'il y a une petite paire de fesses coincées entre les deux yeux.
T'as pas un autre sujet de conversation ?
Ben quoi ? C'est la vie. De toute façon, depuis quelques années, je sens bien que tout commence à se dégrader.
Mais bon, je vais prendre un bas. Tu m'emmerdes.
J'ai rien foutu de la semaine. Alors j'attends. Du boulot. Du fric. Quelqu'un qui pense à moi.
Extrait de votre cours, Olivier Babinet, c'est plutôt genre Johnny Walker. En 2008, prix spécial du jury à Clermont en 2009, s'il vous plaît. Étienne ressasse ses problèmes, il en a assez de vivre la même vie. Et puis, sous l'influence d'une gélule énigmatique, il va se retrouver prisonnier dans une boucle infernale. Un univers déjà étrange et quotidien à la fois. Un gros travail sur le son, magnifique. Vous aviez à l'époque déjà fait vos armes sur Canal+, avec le bidule, plus des pubs, plus des clips. Alors, pourquoi un court-métrage, finalement ? Pour plus de liberté ?
Ben, ça faisait, j'ai l'impression, presque 10 ans que j'essayais de faire mon premier long-métrage.
Oui.
Parce que j'avais beau avoir fait le bidule sur Canal+, moi, j'avais envie de faire mon... de rentrer dans le cinéma indépendant, et la voie royale, un peu, chez Canal+, c'était, on fait des sketchs, et puis on fait un film qui ressemble à un gros sketch. Et moi, ça m'angoissait, parce que je voulais vraiment faire du cinéma, et j'aimais pas trop ces films qui étaient, on disait, l'esprit Canal. Je me sentais un peu en dehors de ça. Ouais. Bref. Après, j'ai mangé mon... quoi, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû surfer sur le bidule, mais ça m'a pris 10 ans pour faire Robert Mitchum est mort, mon premier long-métrage,
ouais.
Parce que mon producteur que j'avais connu en 4e au Collège Foch à Strasbourg, il y connaissait pas grand-chose, on connaissait personne, on s'y prenait très mal au début, mais on a fini par plus faire de fautes d'orthographe dans nos dossiers du CNC, tout ça. Et j'en pouvais plus parce que j'avais envie de faire du cinéma. Et donc j'ai écrit ce court-métrage parce que, un peu rageusement comme ça, en 15 jours, parce que j'avais ça en moi depuis toutes ces années, je voulais faire du cinéma.
Et ça a été... qu'est-ce que ça vous a appris, justement, ce tournage?
J'allais juste dire simplement que c'était génial, quoi, de tourner la nuit, ça se passait que la nuit, d'être complètement en dehors du monde, à fabriquer comme ça un monde. Non, ça m'a appris que ça me plaisait beaucoup.
Vous êtes découvert réalisateur, vous aimiez bien diriger.
J'avais commencé presque à 16-17 ans à faire des films avec mes copains, quoi. Ça faisait longtemps quand même que je faisais plein de choses et tout, donc je me sentais réalisateur, mais pas encore légitime dans le cinéma. Et puis ça m'a permis d'expérimenter la durée, les dialogues.
Et le cours, ça légitimise ?
Oui, ça légitimise et puis ça, ça incarnait. Moi, je voulais, petit, je regardais la quatrième dimension à la télé, j'adorais le cinéma fantastique. Enfant, je jouais à Star Wars et en même temps, j'étais un Français qui veut faire du cinéma, donc c'est plutôt le cinéma existentiel. Ça me permettait d'essayer, tiens, qu'est-ce que ça donne quand on met une goutte de quatrième dimension dans un film français avec deux mecs dans, malheureux dans un appart, quoi, en gros.
C'est un terrain d'expérimentation, on peut faire un peu. Vous vous êtes senti libre ?
Je me suis senti très libre.
Beaucoup ouais. plus Canal Plus pour le Bidule ?
Alors, le Bidule, on était très très libre. Parce que c'était pas, on avait fait ça complètement entre nous, c'était pas une commande. Donc j'avais eu la chance d'être très très libre pendant deux ans, parce que la télé c'est un cheval fou emballé. Toutes les semaines, on devait livrer un épisode de 3 minutes.
C'est quoi Oui, c'est ça, 3 minutes.
Voilà.
Tandis que là, votre film, il fait plus de 30 minutes.
Oui, oui, oui.
Alors la durée, justement, c'était vraiment indispensable pour vous. Vous avez écrit une histoire dont vous saviez qu'elle durerait ce temps-là.
Pas vraiment, non. On me disait, ah, vaut mieux 15 minutes, t'auras plus de festival, là, tu réduis un peu les chances et tout, mais non, ce qui est bien, c'est aussi cette liberté, c'est qu'il n'y a pas de format et on fait la durée que le film doit avoir, quoi, qu'on trouve au montage.
Et d'ailleurs, tous à peu près votre durée, là, Camille, par exemple.
Bah, moi, là, cette fois-ci, j'ai fait 22 minutes, mais mon précédent, c'était 27 minutes et justement, je me suis dit que j'allais faire un film un peu plus court. Quoi.
Mais le court est de plus en plus long, non, j'ai l'impression.
Je ne sais pas s'il y a une tendance.
Oui, parce que, par exemple, vous, Eric, il est long le vôtre aussi.
C'est 35 minutes.
Oui.
C'est comme Olivier, je sais grosso modo qu'il va faire dans les 30 minutes, mais s'il en fait 25, 35 ou 38, ça m'est égal.
Et vous, Victor ?
Moi, il fait 46 minutes.
Ah, quand même ! Bravo !
C'est un moyen métrage. Mais je ne me suis pas posé la question de la durée au moment de l'écrire. Enfin, c'est venu comme ça.
Oui, moi non plus. C'est vraiment au moment du montage, en fait. Enfin, et j'ai de la chance. On ne m'a pas dit non, tu fais telle durée. Ou on fait croire parfois aux commissions ou pour les chaînes de télévision pour pouvoir avoir l'argent, quoi. Mais il ne faut pas le dire. Mais bon, voilà. Là, je le dis.
C'est quoi un bon court métrage, en fait ? Est-ce que on dit souvent il faut que ça soit une idée avec un début, un milieu, une fin,
et voire une chute.
Voilà, non, une chute. Oui, est-ce que c'est un exercice de style ? Vous avez, est-ce qu'il y a une grammaire
en fait ? Moi, je crois pas. Non, j'ai l'impression que c'est très très divers en fait, parce qu'il y a des films qui sont justement des sortes de petits sketchs de quelques minutes très efficaces, et puis il y a des films en fait avec une ampleur beaucoup plus large. Quoi.
Ouais.
Et enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai jamais su faire un court-métrage, par exemple. J'ai toujours l'impression que c'est des débuts de long-métrage ou des longs-métrages un peu compressés ou des choses comme ça, mais le format du court-métrage en tant que tel, je sais pas trop comment le considérer ou l'aborder.
Et puis, il y a l'économie aussi. C'est des gens qui sont pas forcément soit pas payés, soit payés très mal, non ?
Oui, il y a ça, il y a aussi... Moi, je me souviens, quand pour c'est plutôt genre Johnny Walker, je me disais, bon, il n'y aura pas trop de sous. Qu'est-ce qu'on peut faire avec deux personnages, deux appartements, une station-service, et faire un peu de fantastique, quoi. Il y avait côté exercice...
La contrainte.
Oui, mais qui est génial. La contrainte, c'est... Rossellini, il invente quelque chose parce que il y a plus d'économie, il n'y a plus de caméra, il prend une caméra de reportage et il invente le nouveau réalisme. Ouais. Et qui après va influencer la nouvelle vague, mais à la base, il n'a pas de pognon et il est obligé de faire ça. Donc c'est vrai que les contraintes... Moi, quand je me souviens d'avoir lu ce bouquin de Rossellini dont je n'avais pas vu les films et je me sentais complètement proche de ça, parce que c'est vrai que les premiers films Super 8 que je fais, c'est ça, c'est tiens, on a deux raquettes de Babington, un frisbee, qu'est-ce qu'on fait ? Tiens, c'est un super-héros, tiens, mets le frisbee sur ta ouais. capuche et vas-y, on fait un film de 3 minutes. Ça c'est... Et c'est bien les contraintes pour faire du cinéma.
C'est des copains, c'est des gens qui ne sont pas payés, mais est-ce que ce n'est pas compliqué de diriger, de mener une équipe de gens pas payés ?
Bah, là, ils étaient payés, mais parfois, c'est très difficile, mal. Moi en tout cas, avec une enfant de 7 ans et un chien, j'avoue que c'était un peu compliqué en termes de contraintes. Ce n'est pas forcément évident, mais...
Non, mais en général, c'est vrai que y a beaucoup de passion dans ces histoires.
Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que, à mon avis, les techniciens, les techniciennes qui participent au film court, enfin, ils le font pas pour le salaire, enfin, c'est clair. Ils le font parce qu'ils croient dans le film ou qu'on a des relations comme ça qui s'établissent sur la durée. Bon, moi, en l'occurrence, là, j'ai filmé ma famille et mes amis, donc je vais pas payer. Ouais.
Pardon, maintenant, je voulais revenir sur ce que tu disais sur les contraintes, et quel que soit le budget qu'on a pour un court-métrage qui est toujours petit, finalement, même si on a des sous, on est réalisateur, je crois, obligé de choisir ses contraintes d'acteur, de temps, de décor, enfin voilà. Et la liberté qu'on a, c'est de les choisir, vraiment. Et à partir du moment donné, on les a choisis dans cet espace-là, qui est peut-être petit, par rapport à un grand film, et ben on a toute la liberté. Moi, je trouve que c'est dans le choix de ces contraintes qu'on peut être fort. Quoi.
Et puis, il y a un truc nouveau dans votre monde, c'est qu'il y a des nouveaux producteurs maintenant qui sont jeunes aussi. C'est important, ça, non?
Oui.
Qui comprennent, qui, en fait, qui suivent le même chemin que vous.
Oui, et puis avec qui on peut parler d'égal à égal.
Oui.
Pour moi, c'est important.
On a, ouais, bah oui, on arrive à vous. D'ailleurs, votre héroïne, Camille Dumortier, c'est une petite fille de 7 ans, Zoé. Un été, le père est mort, la mère répète sa musique, c'est Barbara Carlotti, c'est ça?
Tout à fait, ouais.
Et la voisine Betty et sa chienne Gouache.
Aujourd'hui, je me suis fait une super copine au parc. Mais à la fin, on en a eu marre, alors on est rentrés. J'ai vu que maman avait écrit des trucs sur papa. Ça m'a énervée. À la boulangerie, maman ne voulait pas m'acheter un pain au chocolat, alors j'ai dit salope. Une dame s'est retournée et m'a dit qu'on parle pas comme ça. J'ai entendu maman chanter ce que papa jouait au piano. Ça a eu l'air de la calmer. Maman a eu peur pour moi, elle savait pas où j'étais. Ça m'a fait plaisir qu'elle s'inquiète pour moi.
Moi, j'ai pensé qu'elle t'avait prévenu.
Non, elle m'a pas prévenu. C'est quoi ces conneries? Tu fais ça pour t'aider?
Non, ça va. C'est exactement ce dont ma fille a besoin, ok?
Ça s'appelle la cipe à bouger. Vous avez multiplié les difficultés puisqu'il y a une enfant et un chien.
Bah oui, hein, j'aime les challenges comme on dit dans le monde de l'entreprise. Mais je sais pas. C'est venu parce que j'ai retrouvé un journal que j'avais enfant où je disais mon chien a mangé ses enfants. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je projette? Enfin, j'ai trouvé ça hyper violent.
Ah oui.
Et après, je me suis dit...
C'était pas vrai.
Si, c'était vrai.
Ah. Mais
apparemment, c'est fréquent. Hein. Mais bon, je ne suis pas vétérinaire et tout. Ouais. Mais ça arrive quand les chiens sont dans des univers... Enfin, quand ils sont anxieux. Moi, j'avais projeté que le chien, il ne voulait pas que ses petits grandissent chez nous, quoi.
Métaphore avec la petite fille qui a des petits problèmes quand même familiaux.
En fait, relationnel.
Oui, c'est assez noir dans le fond. Donc c'est parti d'une phrase d'un journal intime de vous petite.
Oui, voilà, c'est ça. Et je me suis dit, comment en fait le deuil, il peut éloigner. Elles sont pas au même endroit. La petite fille, elle a envie. Enfin, elle est pas, elle intellectualise pas. Elle est pas dans dans son ressassement. Donc elle veut aller vers la vie. Donc elle va vers sa voisine qui a l'air mieux, parce qu'on a, quand on est enfant, parfois on a tendance à...
On préfère les mères des autres.
Voilà, c'est ça. Ouais. On a tendance à se comparer. Et donc, c'est venu comme ça, ouais.
Et Barbara Carlotti, elle a accepté facilement parce qu'elle joue un peu son propre rôle. Pas de mère,
ah oui,
pas de
non,
mère comme
en
ça.
En plus, elle n'est pas mère,
chanteuse.
Barbara.
Oui, de chanteuse, quoi. Qui répète.
Ouais, elle a accepté facilement, oui, parce que je lui ai dit qu'elle n'allait pas monter dans les tours, parce qu'elle a un caractère plutôt posé, etc.
Ouais.
Donc, c'est ça qui me plaisait de la prendre pour pas qu'on. Enfin, on pourrait s'attendre à une mère tout de suite qui. Personnalité très vive, comme ça. Et j'aimais bien prendre cette actrice, qui est chanteuse, pour ça.
Vous dites que vous êtes autodidacte, donc ça a commencé comment, votre parcours, en fait?
Moi, je suis vraiment autodidacte. Enfin, j'ai arrêté le lycée, j'ai pas passé mon bac. Enfin, je revendique pas forcément ça, mais c'est juste, de fait, c'est ça, quoi. Et c'est mon frère qui me filmait quand j'étais petite, avec sa petite caméra DV. Et j'ai fait mon précédent film Maison Blanche comme ça, en utilisant un peu à partir de mes archives familiales, vidéo, cette fois-ci pas d'un journal intime. Et je pense que c'est venu comme ça, et comme le cinéma est contagieux, je me suis mis à faire des petits films quand j'étais enfant.
Et votre frère n'a pas continué, lui?
Non, lui, il n'a pas continué.
Non.
Non. Non, il a eu des difficultés psy, voilà.
Ah oui.
Mais ça va, il va très bien.
Mais vous, cette petite fille, c'est pas vous dans la vie, si?
C'est une fiction, c'est tiré de mon vécu, mais évidemment, c'est une fiction. Par contre, oui, j'avais vraiment dit salope à ma mère à la boulangerie, et je me souviens que il y a une dame qui s'était retournée, il m'a dit, mais enfin, on parle pas comme ça à sa grand-mère, et j'étais là, c'est ma mère. Et donc, j'avais un rapport à la honte très fort.
Oui.
Et parce que la honte, c'est presque une émotion sociale, parce que c'est le rapport à l'autre.
Oui.
Et quand on est enfant, on agit comme ça, de manière pulsionnelle. Enfin, c'est ça qui m'intéresse chez les enfants qui sont un peu en opposition avec l'ordre social, l'ordre établi. Fin...
Et votre petite actrice, elle a improvisé ou tout était très écrit?
Non, c'était écrit. Alors après, dans les répétitions, on a ajusté, parce qu'il y avait des choses qu'il fallait lui expliquer, des mots où je me suis rendu compte que c'était pas forcément... elle n'était pas forcément à l'aise avec ça, donc on a un peu adapté en fonction de son âge.
La difficulté dans le cours, quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est effectivement de raconter très vite quelque chose. Et votre première scène, hein, Olivier Babinet, je trouve, hein, déjà il y a tout, quoi. Cette petite fille toute seule avec son chien, quoi. C'est pas facile, ça, hein, d'imposer tout de suite un climat et de raconter...
Ouais. L'atmosphère.
Bah, moi, j'aimais bien commencer le film sur une fausse piste, où on se dit, ah, on va partir avec cette famille, comme ça, en vacances, un père, une mère, ouais. Le petit voiture, je sais pas ce que c'est comme marque, mais bon, de toute façon, j'ai pas le droit à la radio.
Non, surtout pas.
Et j'ai pas d'intérêt, d'ailleurs. Et en fait, non. Elle aboie, il y a une rupture, et en fait, on va nous raconter l'histoire de la laisser pour compte. Voilà. Donc, j'aimais
celle
bien.
Qui part pas en vacances.
Celle voilà. Qui part
ouais,
pas en vacances.
Ben oui. Comment il était financé, ce film?
Alors, il était un petit peu mieux financé. Il a eu France 2.
Quand même.
Ouais. Et il est sur France 2 d'ailleurs en ce moment.
Il est diffusé sur France 2.
Il est diffusé là. Voilà. Et il a eu la Nouvelle-Aquitaine, le département des Landes, et il a eu une petite aide modeste du CNC.
Tout ça, pas... ça veut dire beaucoup de mails, de coups de fil, de rencontres, de rendez-vous ou pas?
Ah mais c'est de l'écriture et faut défendre le projet. Quoi.
Oui.
Faut y aller. Faut pas être menaçant, mais faut. Faut quand même.
Faut y croire.
Ah, faut y croire, ouais. Faut avoir le feu sacré, parce que sinon, c'est mort, quoi.
C'est fatigant, ça, parce qu'on ne se rend pas compte du travail qu'il y a en amont, hein, Victor Boyer, c'est fou, non?
Oui, alors moi, pour le coup, c'est vraiment une situation très différente, dans la mesure où le film que j'ai fait, Les Traquances, n'a pas du tout été financé ni produit.
Ah oui?
Je l'ai fait dans un régime d'autoproduction, en réalité. Donc. Avec une somme vraiment très modeste, on va dire.
Et votre production, ça s'appelle Sans attendre.
Alors,
production.
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé le film en autoproduction, et au moment où je faisais la post-production, j'ai créé une structure avec mon frère et ma cousine pour essayer d'obtenir des aides à la post-production, etc. Et puis ça faisait longtemps qu'on en discutait. Donc ça a commencé en statut d'autoproduction et puis c'est devenu une production, mais il n'y avait pas d'argent. Voilà, pour
mais comment on fait là, je crois?
Bah, le tournage, c'était 1000 euros.
Maison de famille.
Maison de ma belle famille, voilà. Amis, enfin ouais. Voilà, une caméra, une perche.
Ouais. On écoute un petit bout.
Je sais pas, je me pose pas trop la question. Non, je sais pas, faire des enfants aujourd'hui. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, non, mais c'est sûr que si tu réfléchis en dehors de ton propre désir, tu fais pas d'enfant. Mmh. Faire un enfant, c'est égoïste, c'est risqué, c'est absurde. On fait pas pour l'enfant, on fait pour soi.
Ouais.
Mmh. Alors. J'ai choisi d'avoir confiance. C'est comme ça que j'ai envie de me tenir face à l'inconnu. Ouais. Je fais le pari du meilleur.
Bah, moi, c'est le contraire. J'imagine toujours le pire. Comme ça, je me fais pas d'illusions. Puis s'il m'arrive quelque chose de bien, je suis surpris.
Bah, c'est triste.
Bon, je sais pas.
Les Traquances, Victor Boyer, en fait, c'est un pigiste rock qui part en vacances, mais il a une grosse réflexion en sous-main. Sa copine voudrait qu'il fasse un enfant ensemble et il réfléchit. C'était ça l'idée.
Exactement, ouais. Oui, c'est ça l'idée. Mais en même temps, j'avais envie d'aborder cette question de la paternité possible, en tout cas. Mais pas que ce soit une thématique. Enfin, je voulais que ça infuse un peu dans le film, mais de manière souterraine, discrète, on va dire.
Exactement. Et au début, il y a quelques inspirations. Bon, il y a une énorme inspiration, c'est Renoir.
Alors, oui, vous dites ça pour Partie de campagne?
Oui.
Bah, à la fois oui et non. C'est-à-dire, c'est pas volontaire. Il se trouve que j'avais revu le film... peu de temps avant de me mettre à l'écriture, et puis par ailleurs que les deux films font exactement la même durée, et que j'ai volé une réplique à Renoir aussi, bon voilà, donc si, il y a quand même des points.
Mais là, ils ne sont pas des vrais acteurs, donc c'est votre famille, c'est vos amis. C'est
enfin, à l'exception d'Edouard Sulpice, avec qui j'avais déjà fait un film, et qui est le seul acteur professionnel de l'équipe, mais sinon tous les autres, c'est des gens qui n'avaient quasiment jamais joué devant une caméra.
Est-ce que c'est le croquis d'un long, ce film-là?
C'est pas comme ça que je l'ai conçu, pensé, tourné. Mais il se trouve que là, j'y réfléchis. Ouais. Ça pourrait être... En fait, je crois que j'ai envie de faire la suite, de reprendre le film où il s'arrête et de continuer avec le personnage de la jeune femme.
Et en dehors de Pantin, où il va être montré, il sera montré où ? Ça, c'est un problème de diffusion.
Alors, il a déjà été montré au festival de Brive auparavant. Mmh. Là, ouais. À Pantin, les autres festivals, je ne sais pas encore. Mais j'espère pouvoir le vendre à une chaîne de télévision, par exemple.
Et ça, on fait comment ? On va voir les chaînes ?
Pour l'instant, j'attendais un peu que les chaînes viennent me voir.
C'est pas la bonne méthode, on ne sait jamais.
On ne sait pas, à l'issue de Pantin, peut-être, mais sinon, oui, je pense que je prendrai ma petite mallette et puis j'irai taper.
Mais comment on gagne sa vie ? Vous faites autre chose à côté ?
Alors, ouais, je veux d'autres choses, ouais. Ouais. Mmh. Moi, j'écris pour d'autres, par exemple. J'ai été ouvreur pendant 3 ans en sortant de la FEMIS. Enfin ouais. Bon, et puis je fais des trucs à droite, à gauche, quoi. Mais
en quelle section vous étiez à la FEMIS ?
J'étais en réalisation.
Ouais.
Ouais.
Et ça aide ou pas, alors ?
C'est un peu la section maudite de l'école, dans la mesure où la plupart des gens qui font des longs métrages en sortant de la FEMIS ont fait une autre section.
Une autre section.
Ouais.
Que ça soit. Par exemple, j'ai deux amis qui vont tourner cette année. Et un a fait décor et l'autre montage. Vous voyez, donc.
Ça vous permet de rencontrer des gens aussi de votre génération.
Oui, c'est surtout ça la vertu de l'école, c'est de
se faire des amis. Vous êtes en bande ? Vous avez une bande autour de vous ?
C'est des bandes un peu diffractées. Enfin, mm-hmm. Je dirais pas qu'il y a des bandes comme l'espèce de légende de bande qu'on peut avoir en tête, les Nouvelles Vagues et compagnie. Ouais. Mais je pense
vous avez appris quoi là-bas ?
Bonne question. Je sais pas. J'ai appris. Non, j'ai essayé de faire des films. Enfin, on fait des films à l'école. C'est surtout ça qui est génial. C'est-à-dire qu'on, c'est comme une sorte
de... Il y a des moyens.
Voilà, c'est un atelier très, très richement doté. On peut faire des films sans contrainte, sans passer par les commissions, sans avoir à supplier qui que ce soit.
Mmh. Et ça, c'est quand même...
Voilà, c'est ça.
Et vous, Olivier Babinet, vous n'avez pas fait d'études de cinéma ?
Non, et j'habitais pas loin de la FEMIS et j'étais très jaloux. Il m'énervait beaucoup. Et je passais devant. Et en même temps, j'avais envie. Mais non, mais j'étais très envieux. C'était génial de faire. Pouvoir faire que des films pendant.
Non, mais ça, c'est génial. Je ne peux pas dire du mal de la FEMIS. Voilà. Enfin, ouais. C'est une chouette école, vraiment. Mais ouais. C'est vrai que quand on sort de la section réalisation, on n'est pas forcément armé pour attaquer le long métrage, par exemple.
Et moi, j'ai pas fait la FEMIS, j'ai fait Paris 8, et j'ai tenté la FEMIS que je n'avais pas eu. Mais j'ai des copains et des copines qui étaient à la FEMIS, et à Paris 8, il y avait peu de matériel, et donc on allait emprunter du matos à la FEMIS. Donc j'ai monté à la FEMIS, j'ai eu des caméras de la FEMIS, mais j'ai jamais fait la FEMIS.
Emprunter, c'est le mot ?
Tu peux dire voler ?
Ouais,
oui, c'est ça, oui.
Emprunter pour deux jours, regarder des semaines, quoi.
Et la nuit.
On écoute un autre extrait des Traquants, très joli, avec ce petit bébé qui est génial, cet enfant. Quel âge il a ?
Eh ben aujourd'hui, il a presque 2 ans.
Non, mais pendant le tournage.
Un an et un mois.
Non, mais
dans le film.
Oui, c'est ce qu'il dit dans le film.
C'est mon fils. Hein, je
ah, ben c'est un très grand acteur, votre fils. Et alors, donc, Yvan, il va
t'as réglé la question d'avoir un enfant.
Voilà.
Voilà, c'est ça. Oui.
Ah oui.
Avant.
Il a écrit avant.
Non, en fait, j'ai fait le film parce que j'avais envie de filmer mon fils à cet âge.
Ouais.
Et de réfléchir a posteriori sur ce qui m'avait traversé quand j'ai appris que j'allais devenir père et que. Et que c'était pas forcément ça allait pas de soi, quoi. On est traversé quand même par des doutes, des incertitudes, des choses comme ça. C'est un peu terrifiant, je veux dire, la perspective d'avoir un enfant.
Yvan doit garder ce petit bébé pendant une après-midi entière, mais il doit aussi écrire un article pour son journal de rock. On écoute l'extrait.
Non, attends, ça c'est mon outil de travail, tu comprends. Alors, attends, écoute. Tatati tatata, patali patalea. Les bruits sortent du petit orchestre. Ok, attends ça. Aujourd'hui, alors Albert Heller est aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est bien. Est aujourd'hui nécessaire parce qu'il est invendable. Une larme qui coule sur son instrument pendant les funérailles de John Coltrane. Cecil Taylor qui bondit de son piano lorsqu'Albert joue avec lui pour la première fois, ses yeux grands ouverts face au soleil, quand il accomplissait des rites hindous bizarres à la fin de sa vie. Et enfin, on entendrait le chant des cigales à Saint-Paul-de-Vence qui se mêlerait à l'ovation. Cet instant unanime qui bouclera mon cinéma intérieur, car il n'a rien, rien de pittoresque à l'imaginer noyé dans l'East River. Il est triste qu'il soit mort et qu'il soit loin. Top course, 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 vitesse, tac, tac, tac. Ah. Ah. Ninja.
Il est prêt à avoir un enfant, lui, hein.
Bah ouais, faut le croire, ouais.
Vous êtes comme ça quand vous écrivez un scénario ?
Maintenant oui.
Oui. On passe à vous, Eric Pinatel, avec James Hadley Porte-Plainte. Là aussi, c'est une autoproduction ?
Oui, c'est une autoproduction.
Ancien élève de Betaram, ancien élève victime de Betaram, vous en avez fait une fiction de ses souvenirs en prenant un personnage que vous aviez déjà mis en scène avant, qui s'appelle donc James Hadley, qui est détective privé. Tiens, on va écouter un extrait.
Ils m'ont mis là-bas pour ça, pour la discipline.
Oui, les claques, ok, les miens, pareil.
Ouais.
Mais les attouchements, les viols.
Ah, ça, c'est le forfait, tout compris. Les parents, ils savent pas, ils se taisent. Moi, je sais pas s'ils le savent. J'apprends ça. J'apprends la loi du silence.
T'es en train de me dire qu'on nous a appris à taper ?
À Betaram, chaque claque, c'est une graine de violence.
Eh oui, mais... qu'est-ce que tu fais de tous ceux qui ont eu leur vie brisée à cause de ça ?
Il y en a eu combien ? 2% ? 5% ? C'est des dommages collatéraux.
Tu as dit quoi sur ta plainte ?
J'ai pas porté plainte. Enfin, pas encore.
James Hadley Porte-Plainte, justement, Eric Pinatel. Il a été réalisé quand par rapport aux révélations de Betaram ?
Il a été tourné il y a quasi un an, en juillet 2024.
Oui.
Donc ça commençait à frémir fortement en province, mais c'était pas devenu le scandale national depuis octobre ou novembre de cette année-là.
En faire une fiction, c'est une sacrée décision, c'est un sacré choix. En plus, prendre un détective privé, le fictionner complètement, c'était urgent Non, mais c'est vrai, c'était urgent de réaliser ça par rapport à votre passé, à ses souffrances.
Oui. Alors, en tout petit historique, comme vous avez dit, James Hadley, c'est un espèce de personnage qui se balade entre Colombo, Humphrey Bogart et un paysan,
quelque sorte,
que j'avais créé il y a 2 ans dans une fiction qui n'a rien à voir avec celle dont on parle aujourd'hui.
Oui.
Et on avait bien aimé, nous, on est une équipe très réduite, on avait bien aimé ce personnage, on avait décidé, à Noël 2023, d'en faire un deuxième, en disant on va le faire en juillet 2024. Ça s'était décidé, et on ne savait pas quel était le scénario, donc j'avais 6 mois pour écrire quelque chose. Et est arrivée l'affaire de Betaram, en février 2024 pour moi, j'ai mis 2 mois à me décider à porter plainte, et après je me suis dit, tiens, je vais faire un film sur ce que j'ai ressenti pendant ces 2 mois, à savoir au départ le déni, j'ai pas envie de porter plainte, et à la fin je porte plainte. Avec ce personnage-là, donc ça c'était une contrainte volontaire, avec ce personnage-là, et je me suis quand même dit, ce personnage-là, quelque chose d'actualité qui me concerne de manière si proche, je me suis dit au niveau cinéma, je vais dans le mur, j'ai tous les ingrédients pour me planter, j'ai vraiment tous les ingrédients pour me planter. Et donc du coup, je me suis dit, comme j'ai tous les ingrédients pour me planter, ben j'y vais. Justement, allons-y.
C'était funambulesque, quoi, cette aventure. Hein.
Non, parce qu'après, bizarrement, quand on décide de faire ça, enfin, en tous les cas, pour ma part...
On s'en éloigne un peu.
Voilà.
Non, voilà, ça devient un objet de travail.
Oui.
Et ça devient technique, on essaie de faire quelque chose, on traite un sujet, et on s'en éloigne un peu. Il y a beaucoup moins d'affect.
Et en même temps, ça vous fait du bien ou pas d'avoir fait ça ?
Le temps de la fabrication, d'y penser, de le tourner, de le monter, ouais, c'est un objet qui est de travail. Donc ça fait du bien. En tous les cas, on le travaille comme un autre sujet, presque. Comme si on parlait d'autre chose. Après, ça revient une fois que c'est fini. Maintenant, ça revient dans la vie réelle, enfin la mienne. Voilà,
Mais ce qui est fou, ce que montreront jamais des news, des docs, etc., c'est qu'on se rend compte qu'à son âge, encore, ça le traverse, ça le perturbe. Le film le montre très bien, ça.
C'est le sujet du film.
Ouais,
je
oui.
me suis dit, je ne vais pas faire des interviews de victimes. Il y a des reportages, je ne vais pas faire ça. Je vais faire ce qui m'est arrivé, à savoir 40 ans après, on sort de dessous le tapis une histoire qu'on a rangée, et on s'est dit, ah merde, ah oui, ça m'est arrivé. Parce que moi, pendant 35-40 ans, quand j'ai pu parler de Betaram, c'était en rigolant, façon de dire que ce n'était pas grave, ou même étrangement avec fierté. Moi, j'ai fait Betaram. C'est bizarre, on est entre la honte et la fierté. Moi, j'ai fait Betaram. Je vous emmerde. Voilà. Et donc, le ressortir...
Et vous n'avez jamais voulu en parler avant ?
Alors, quelqu'un qui savait, mon épouse, qui joue dans le film, qui a participé au scénario de manière active, Laure Bellassène, pour ne pas la nommer. Oui, j'avais pu lui en parler au fil des années.
Oui.
Et chaque fois, elle me disait, non, tu en parles en rigolant, il s'est passé plus que tu n'en dis.
Non, mais jamais avec l'idée en sous-main d'en faire un film, jamais, avant.
Non, jamais. De rien en faire, de l'avoir mis dans un tiroir. Mais ça, par rapport au film, la difficulté, je trouve, pour moi, que j'ai pu partager avec d'autres victimes, c'est à qui on le dit. C'est à qui on le dit. Quand on parle toujours la parole ouverte. Moi, je crois qu'il faut chercher quelles oreilles, à qui on peut le dire. On va pas le dire quand on est petit au curé ou l'entraîneur sportif qui abuse de nous. On va pas le dire aux copains quand on a 20, 25 ans parce que ça fait con. On va pas le dire à la police parce qu'on n'a pas vraiment confiance. Donc c'est à qui on le dit. Donc c'est à quelqu'un de confiance.
Mais alors, faire une mise en scène quand même avec cette fameuse chevalière qui a existé. Et qui frappait des enfants, faire du cinéma avec ça, c'est quelque chose aussi, hein.
C'est ce que j'ai essayé de faire.
Oui.
C'est ce que j'ai essayé de faire. Il n'y a pas du tout de reconstitution, il y a que des sons off.
Ouais.
Donc c'est essayer de faire voir, ressentir des choses qu'on ne voit pas immédiatement dans l'image.
C'est ce que vous dites, vous partez d'une phrase de Godard qui dit le cinéma est fait pour voir ce qu'on ne voit pas.
Oui. Oui, je la reprends à mon compte.
Bah oui.
Mais je pense que c'est valable pour peut-être mon film, espérons. Mais d'une manière générale, c'est-à-dire à travers des choses très, très simples, boire un verre d'eau ou penser à quelque chose, que ça suscite un sentiment, une émotion, quelque chose autre que le simple fait de voir quelqu'un boire un verre d'eau. Je pense que c'est l'intérêt du cinéma. Quels que soient les films, quoi. Quand on voit un chien, un truc comme ça, ça doit nous faire un aller-retour entre ce qu'on voit. Est-ce que ça nous fait ressentir? Je pense que c'est l'intérêt du cinéma.
Et ce qui est beau d'avoir choisi ce personnage de détective privé, c'est que vous êtes détective de votre propre passé, en fait.
Oui. Il fait une enquête sur lui-même, mon personnage,
voilà,
qui refuse au début. Le film, c'est très simple. La ligne dramatique, c'est du déni à aller porter plainte. C'est tout. C'est la seule chose dont je voulais parler, quoi.
Un film réalisé, j'ai vu 7000 euros sur vos fonds propres.
Oui, parce que l'acteur principal est camionneur de métier, Didier Daricot, donc il a pris 12 jours d'arrêt, je lui ai dit, je te file 200 balles par jour. Il a 2-3 allers-retours Paris, il y a des voitures américaines louées, Il y a de la nourriture, puis quelques 500 balles par-ci, 500 balles par-là. Donc c'est 7000 euros. Pour moi, c'est en gros 6 mois de travail, donc c'est 6 mois où je ne gagne pas d'argent, évidemment. Mais tout ça, je le sais avant de partir, enfin avant de démarrer le film. J'ai le temps, j'ai l'argent, j'ai envie, j'y vais.
Ouais. Merci beaucoup. Vous restez avec nous tous les quatre. Olivier Babinet, Camille Dumortier, Éric Pinatel et Victor Boyer. Et on se retrouve pour les sorties des longs métrages après Bertrand Belin, l'inconnu en personne.
Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question. Ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, d'Adam, mais j'entends leurs pas dans le désert. J'entends leurs pas dans la prairie, en ville, sur une place. Dans l'allée des cimetières, dans l'allée des grandes surfaces, à l'appel du printemps, je les entends se faire des promesses de hauteur, de souplesse, d'argent. Je les entends faire des prières. Pour eux-mêmes, parfois pour leurs congénères. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a un au bord du Nil. Il y en a une dans un cul-de-sac, un autre accroupi dans la flaque, le doigt dans une anémone, le rire qui carillonne, la face qui rayonne, une autre au bout de ses efforts. Emporté dans la mort, l'amour, le carbone, je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs dedans.
France Inter, on aura tout vu, Christine Masson et Laurent Delmas.
Oui, avant les sorties, vous voulez faire un grand merci, à Jackie Évrard, fondateur du festival Côté Court à Pantin. Vous avez autre chose à dire ?
Oui, pour tout ce qu'il apporte aux cinéastes, ouais. La mise en lumière et le courage.
Mmh. Ouais, exactement. Bravo.
Merci Jackie.
Oui, grand merci Jackie. Merci
Jackie. Bravo Alice. Voilà. On va commencer par Cloud, ce film. Alors, le réalisateur japonais Kiyoshi Kurosawa, qui a quand même réalisé 3 films en 2024. Shaim la semaine dernière. La Voix du Serpent, ouais. Sorti prévu le 13 août, et celui-ci, ouais. Cloud. Donc, l'histoire de Ryosuke, qui plaque tout pour vivre de la revente en ligne, mais bientôt certains clients menaçants resserrent l'étau autour de lui sans qu'il en comprenne les raisons. Son rêve d'indépendance vole en éclats dans un Japon hyper connecté. Fuir est impossible, surtout quand on ignore les règles du jeu. Une histoire inspirée d'un événement réel survenu au Japon. Plusieurs internautes, ne se connaissant que par écran interposé, ont comploté puis exécuté le meurtre d'un inconnu. Donc ce film est une chronique sociale jusqu'au thriller inquiétant et au jeu de massacre, Laurent.
Oui, alors comme dans pas mal de ses films précédents, Kurosawa explore et fouille une sociétés numériques et virtuelles. Ça fait toujours du bien d'aller gratter là où ça fait mal. Et cette fois, à travers les activités effectivement commerciales de son protagoniste, qui achète à bas prix à un artisan des machines thérapeutiques pour les revendre à prix d'or sur son site marchand. Voilà, ça c'est pour le côté moral. Mais la machine se dérègle et la police d'un côté et les clients mécontents de l'autre commencent à prendre Yoshi, le héros, pour cible principale. L'essentiel, c'est ça, et c'est en même temps des atmosphères inquiétantes sur des tout petits riens de la vie quotidienne, avec une montée en puissance de l'angoisse absolument concomitante, et puis au bout du compte, une explosion de violence assez particulière. C'est bigrement efficace et c'est singulièrement désespéré.
Ça s'appelle Cloud.
Oui.
Freud, la dernière confession de Matt Brown à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Sigmund Freud s'est réfugié à Londres en compagnie de sa fille Anna. Sous l'effet de l'âge et de la maladie, la star mondiale de la psychanalyse est un vieillard aigri et capricieux, mais la curiosité du professeur est piquée au vif lorsqu'un certain C.S. Lewis, futur auteur des chroniques de Narnia, romancier et chrétien revendiqué, le mentionne dans l'une de ses publications. Leur rencontre autour de la question de Dieu va tourner au duel. Un récit scolaire, statique et bavard, Laurent, non ?
Bah oui, c'est adapté d'une pièce de théâtre, oui. Hein, donc ça donne une sorte de huis clos entre l'inventeur de la psychanalyse et celui du monde de Narnia. Je suis pas sûr que le match soit à armes égales. Du coup, d'ailleurs, on le déséquilibre en faisant de Freud un vieux vieillard grincheux et ronchon et pas très sympathique à l'égard de sa fille, ce qui frise la caricature quand même. Bref, c'est une série de clichés avec une théâtralité absolument artificielle, voire même superficielle. Des clichés à l'appel, deux acteurs un peu en roue libre dont on voit bien qu'ils sont dans la recherche de la performance, sans oublier de très lourds flashs black tout au long du film. Bref, c'est raté.
Hopkins, après avoir joué Hitchcock, Benoît XVI, Picasso,
ouais,
et Nixon.
Ouais. On va arrêter le biopic. Hein.
Ouais, c'est lourd. Dans la peau, Pascal Tessot, de retour à Marseille, Calimex détenu, revient vivre dans les quartiers nord. Il travaille sur les chantiers tout en rêvant de vivre de sa passion pour la danse. Marie, elle, est une jeune architecte, découvre la ville et ses cultures. Leur rencontre inattendue devient vite une histoire d'amour tumultueuse.
Oui, on avait découvert ce cinéaste, Pascal Tessot, à Cannes en 2016, dans la sélection de l'acide, souvent inspirée, avec un film qui s'appelait Brooklyn. Et son héroïne, alors, était une jeune rappeuse suisse. Cette fois, il nous revient avec une romance très Roméo et Juliette, entre une jeune architecte fan de Rebetiko, hein, le chant grec, la musique grec, et puis un jeune danseur de crump marseillais. Et ce dernier est incarné par Wilfried Bley, et qu'on avait découvert, là aussi, dans Les Indes Galantes de Clément Cogitor. Ben, le résultat, c'est un peu de polar, un vrai regard social, un troisième personnage qui est joué par la ville de Marseille, et pour couronner le tout, un vrai sens du cadre et du rythme. Mais que demander de plus ? Il faut aller voir dans la peau.
Horizon ou Horizonte, du cinéaste colombien César Acevedo, Basilio, criminel de guerre, part à la recherche de ses victimes et de sa mère afin d'obtenir leur pardon sur les horreurs passées, qui sont toujours hors champ, Laurent.
Oui, c'est le deuxième long métrage de ce cinéaste et dont on avait apprécié en 2015 un film qui avait reçu tout simplement la caméra d'or à Cannes. Et c'est d'abord le film d'un pays épuisé par la guerre civile entre les FARC et le gouvernement durant 60 ans. Hein, quand même, le personnage principal porte le poids des crimes des militaires et le réalisateur convoque le meilleur de l'imagerie entre guillemets sud-américaine pour restituer l'ambiance, la culpabilité, la mémoire, le repentir, la résilience qui n'arrive pas, bref, toute cette cohorte à la fois de vivants, de morts et de fantômes, et c'est là que le film prend réellement son envol.
La Terre des Vertus de Vincent Lapize, les jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers font face aux aménagements liés au JO 2024 et à la pression foncière, un doc partisan, Laurent.
Oui, c'est un endroit que je ne connaissais pas, moi, qui est né en 1935. À l'époque, c'était 6 hectares mis sous forme de loyer à la disposition des habitants d'Aubervilliers pour cultiver leur petit lopin de terre. Progressivement, le terrain s'est réduit, mais il y a eu quand même la volonté du Grand Paris d'y construire notamment un solarium à 10 euros l'entrée, ce qui a évidemment provoqué la stupeur et la colère des habitants. Et ce documentaire, évidemment militants, mais après tout, pourquoi pas, montrent leur révolte. Et c'est bien, parfois, il y a des documentaires qui se finissent bien. Et ben c'est le cas de ce documentaire-là.
Et voilà. Un autre documentaire qui s'appelle « Les dernières grandes transhumances » de René Manant et Charlie Bell.
Avec des moutons.
Bon, j'aime beaucoup les moutons, j'adore les moutons, c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup aimé ce doc. Un troupeau de 3000 moutons parcourant à pied.
Vous les avez comptés.
200 km durant 10 jours depuis la Provence jusqu'aux Alpes, dans des décors sublimes. Tourné il y a 20 ans, le film a été restauré, remasteré. Une tradition aujourd'hui disparue dans des décors vraiment sublimes, une armée indisciplinée, parfois de belles paroles de berger et un sobre commentaire signé Hugo Frey, passionné de pastoralisme. Voilà, ça s'appelle « Les dernières grandes transhumances dans les bonnes salles ». Jardin d'été de Shinji Somai. Le film date de 1994 puisque le metteur en scène a disparu en 2001. Il est inédit chez nous dans une version restaurée, un tendre récit d'apprentissage entre des jeunes garçons et un vieil homme. Dans un jardin.
Oui, on a appris, moi j'ai appris à cette occasion que c'était un des cinéastes préférés de Coréda, oui. Et on comprend pourquoi il y a une vraie filiation là, dans l'histoire de ces trois écoliers qui vont à la rencontre d'un vieil homme qu'il décide d'espionner pour voir, je cite, quand et comment il va mourir. Bon, les choses deviennent un peu plus gentilles après, mais enfin, quoique, ça reste très tendu, c'est une sorte de merveilleux somnambulique qui est tout à fait réussi, il faut découvrir ce cinéaste japonais de toute évidence.
On en avait parlé la semaine dernière, le répondeur de Fabien Godet, un célèbre romancier, achète sa quiétude à un jeune imitateur pour qu'il réponde à sa place, à ses appels. L'élève va prendre pas mal de liberté. Deux grands acteurs dans ce film, Denis Podalydès et Salif Cissé dans cette délicate comédie.
Ça fait du bien, une comédie française grand public.
Oui, et bien écrite, c'est bien joué. Et puis un autre film dont on avait également reçu sa réalisatrice Chloé Barreau, c'est Fragments d'un parcours amoureux. Chloé, depuis ses 16 ans entre Paris et Rome, a filmé ses amours. Mais de quoi se souviennent ses ex? Elle, plutôt une autre femme est allée les rencontrer. Et c'est un montage assez singulier.
Sacré
et
parcours.
Fort.
Oh oui, très très fort.
Vraiment. Ah ben on a le temps, dites donc. Avant les cadeaux, on va parler d'un grand festival.
Et oui, on va aller à Annecy du 8 au 14 juin 2025 pour cette nouvelle édition de la MEC du film d'animation. Hein. C'est vraiment un rendez-vous très très important parce que c'est non seulement un rendez-vous artistique, mais c'est aussi un marché, il faut le dire. Et Dieu sait si le secteur commercial du film d'animation est important. Il y aura un grand hommage à Michel Gondry.
Oui.
Tiens, ben nous aussi, on recevra Michel Gondry la semaine prochaine à ce même micro. Et puis, évidemment, de très nombreuses projections. L'animation hongroise qui est mise en avant et des projections aussi en plein air. Et j'ai noté, par exemple, que le 11 juin prochain, on pourra voir ou revoir Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. En public, en plein air, à Annecy. Ça vaut le coup certainement d'être à Annecy du 8 au 14 juin prochain.
Je voulais signaler à propos de projection que Olivier Babinet vous présentez votre film à 14h. Là, on est en direct, donc à 14h à Pantin, au Ciné 104. Oui. Rappelez-moi le titre.
C'est plutôt genre Johnny Walker.
D'accord. Vous voulez rajouter
quelque chose ? Assis, pas bouger à 21h45.
Voilà.
Et vous
Oui, donc Les Traquants se passera lundi à 9 à 21h45 et jeudi 12
à 19h30.
Et vous, Eric Pinatel ?
Et James Hadley porte plainte, c'est donc mercredi à 18h.
À moi, il reste des places le 10 et le 12.
D'accord, ok, très bien. Elle fait bien sa pub, elle a maintenant des cadeaux.
Bravo. Alors, ben, 4 DVD, un chacun. Pour vous, Olivier Babinet, la règle du jeu, Jean Renoir.
Wow.
Oui, quand même, un coffret absolument collector,
plus 4K,
Blu-ray, 4 heures de supplément, un livre très bien écrit de Charlotte Garçon. Moi, je ne me lasse pas de la règle du jeu. C'est Rimini, cette fois, qui fait cette très très belle édition qu'on est ravis de vous offrir et de conseiller évidemment à nos auditeurs. Pour vous, Camille, La Strada de Federico Fellini.
Merci.
Joli coffret aussi en 4K du même éditeur Rimini qui est décidément fait des choses très belles. Je crois que je vous présenterai pas le film de Fellini quand même.
Ça vous parle un peu, Fellini, ou bien je veux dire, vous aimez bien?
Oui, ça me parle.
Oui, ça vous parle.
De livrer avec le coffret, vous verrez.
Bah, merci pour le cadeau.
Bah, oui.
Éric Pinatel, Gosse de Tokyo, de Ozu.
D'accord, je ne connais pas celui-là.
Tant mieux.
Ozu, il en a fait tellement en plus.
Bon, ouais, merci beaucoup.
Absolument, c'est un film de 1932, ça sort chez Carlotta, Blu-ray DVD, et c'est assorti, et c'est très intéressant, du propre remake que Ozu a fait de son propre film, qui s'appelle Bonjour. Donc il y a les deux films pour le même prix, et c'est aussi très intéressant de voir la démarche, évidemment, de ce cinéaste en deux temps. En
moi j'aime beaucoup les remakes, j'ai fait un remake de Total Recall de Verhoeven.
Ah ouais, avec autant de moyens que les 7000 euros, mais c'est bravo.
Et enfin, Victor Boyer, vous avez de la chance, aussi c'est beaucoup plus récent.
Non, c'est pas Albert Heller, mais c'est En Fanfare. Mmh. Voilà, on vous souhaite autant pour vos prochains films de spectateurs que En Fanfare on en a eu. C'est chez Diafana avec beaucoup de suppléments, évidemment. Le DVD est sorti. Voilà.
Merci beaucoup.
Encore merci à Jackie Evra, fondateur du Festival Ciné Côté Court à Pantin. Jusqu'à quand d'ailleurs, Côté Court ?
14.
Jusqu'au 14.
Merci à notre équipe. Valérie Ayestaraï à la réalisation, Louis Tempero à la préparation et Thierry Dupin à la programmation musicale. Au revoir.
Salut.